Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que j'ai vraiment à cœur. Et je cherche ce que Jésus dirait à ce sujet. Donc, j'ai donné à ma prédication le titre « Que dirait Jésus à ?» Je le laisse encore un peu en suspense, on le verra plus tard. D'abord, ma question. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Comme je suis un homme du Nord, pour moi, il faisait trop chaud. Si on regarde la carte de vigilance en France, lundi, le sud-ouest était déjà en orange pour la canicule, et mercredi, presque tous les pays. Et jeudi, il y avait aussi quelques départements en rouge, la région parisienne, par exemple. Même si la météo n'est pas la même chose que le climat, les météorologues disent « ce qu'on vit n'est pas normal ». Trois vagues de chaleur en 4 semaines montrent déjà un changement. Aussi cette semaine, j'ai lu le nouveau livre de Maya Lund, une écrivain norvégienne. Ce roman, qui s'appelle « Bleu », est sorti en France en mai 2019. Voici un petit extrait. Timbaud, Bordeaux, France, 2041. L'air ardent a tremblanté au-dessus de la route. Au loin, une vague d'eau semblait prête à déferler de la butte. Mais le mirage disparaissait au fur et à mesure que nous nous en approchions. Toujours aucun camp en vue. Au-dessus de nos grannes, le ciel était bleu. Pas un nuage. Du bleu, encore du bleu. Je commençais à détester cette couleur. Maya Lund décrit dans sa fiction la France dans l'année 2041. Après 5 ans sans aucune goutte de pluie, le sud de la France est déserté. Les hommes fuient vers le nord, mais il y a des nouvelles frontières entre les suds et les régions au nord qui ont encore de l'eau. La guerre de l'eau bat son plein. Avec Lou, sa fille aînée, David a fui les Pyrénées ravagées par la sécheresse pour retrouver sa femme et leur bébé dont il a été séparé. Mais les réfugiés climatiques sont bloqués à la frontière et les ressources commencent à manquer. Bien sûr, c'est une fiction, mais aussi réaliste, car l'auteur se base sur les exposés des experts, comme l'Agence européenne pour l'environnement. Si vous n'avez pas encore la littérature pour les vacances, je vous conseille ce roman à lire au bord de la mer. Revenons à notre question. Que dirait Jésus à... Et ma question est, que dirait Jésus à Greta Thunberg? Normalement, on ne connaîtrait pas Greta. Une fille de 16 ans, une étudiante suédoise. L'année passée, elle a commencé une grève au collège. Tout le vendredi, elle n'est pas allée au cours, mais elle a manifesté pour le climat. En décembre 2018, elle a prononcé un discours de 3 minutes devant la communauté internationale, devant les Nations Unies, à la conférence mondiale sur le climat à Katowice. Elle a accusé les dirigeants d'être trop lâches pour dire la vérité sur la situation et d'avoir peur de se rendre impopulaire. Cette semaine, Greta est venue en France pour recevoir le prix de la liberté et pour parler devant l'Assemblée nationale le mardi dernier. Elle n'était pas reçue par tout le monde avec le même enthousiasme. Avant sa venue, certains hommes et femmes politiques ont accusé Greta comme gourou apocalyptique, fée clochette, pauvre enfant manipulé, prophétesse en culotte courte et prix Nobel de la peur. Mais que Jésus dirait à Greta Thunberg? On connaît Jésus comme un bon auditeur. Certainement, il écouterait d'abord ce que Greta Thunberg veut dire. Nous voulons faire pareil et d'abord écouter ce que Greta a dit ici en France et ailleurs. Voici quelques extraits de ses différents discours. Écoutons la traduction française.
J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles concernant l'urgence climatique. Je commence par la bonne nouvelle. Comme l'ont dit quelques personnes, le monde ne va pas arriver à sa fin d'ici 11 ans. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que d'ici 2030, si nous ne faisons rien, nous serons très vraisemblablement dans une position où nous aurons passé plusieurs points de basculement et nous ne serons plus en mesure de revenir en arrière sur le changement climatique. Nous vivons dans un monde étrange, où la science nous apprend qu'il ne nous reste plus que 11 ans avant de déclencher une réaction en chaîne irréversible qui échappe au contrôle humain et qui pourrait bien signifier la fin de notre civilisation. Nous vivons dans un monde étrange, où ceux qui ont le moins contribué à cette crise seront le plus touchés par celle-ci. Nous vivons dans un monde étrange, où les politiciens disent que sauver le monde coûte trop cher, alors qu'ils dépensent des milliards d'euros pour subventionner les énergies fossiles. Nous vivons dans un monde étrange, où personne n'ose regarder au-delà de notre système politique actuel, même s'il est clair que les réponses que nous cherchons ne se trouveront pas dans la politique d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde étrange, un monde dans lequel certains se soucient plus de savoir si les enfants vont à l'école que de l'avenir de l'humanité. Un monde où chacun peut choisir sa propre réalité et choisir sa propre vérité. Un monde dans lequel notre survie dépend d'une petite quantité d'énergie fossile qui disparaît, et presque personne ne le sait. Nous vivons dans un monde étrange, un monde où nous croyons que nous pouvons sortir d'une crise en rachetant, en construisant. Une crise qui est là car nous avons acheté et construit. Il semble impossible d'empêcher l'effondrement du climat, mais nous devons empêcher cela. Il est minuit moins 5 et la maison est en feu. Nous vivons dans un monde étrange, mais c'est le seul monde qui nous reste, le monde qui sera transmis à ma génération. Nous sommes maintenant à un carrefour de notre histoire. Nous sommes en train d'échouer, mais nous n'avons pas encore échoué. On peut encore y arriver. Il reste encore du temps. Tout dépend de nous.
Merci à Élise d'avoir prêté ta voix à Greta. Les discours de Greta sont applaudis par les représentants des médias et de la société. Mais Greta a un message inconfortable. Elle montre avec le doigt sur le passé. Elle souligne que nous n'avons pas encore assez fait pour éviter les conséquences catastrophiques du changement climatique. Et Greta regarde le présent. Elle dit que peu de gens riches vivent au détriment de beaucoup d'autres et exploite la terre et ses ressources. C'est pourquoi elle parle de la justice climatique. Et Greta parle du futur. Elle dit que la génération des adultes doit agir maintenant, agir et planifier différemment pour que la terre ne devienne pas inhabitable à l'avenir. Dans le monde entier, s'est formé un mouvement qui manifeste tout le vendredi pour informer sur les conséquences du changement climatique. Que dirait Jésus à Greta Thunberg? Que dit la Bible sur l'écologie et la responsabilité? Je crois en Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est une des plus anciennes confessions de tous les chrétiens. Les chrétiens reconnaissent Dieu comme un créateur. Beaucoup de cantiques, beaucoup de chants de louanges modernes louent Dieu comme créateur. On vient de chanter, tout à l'heure, on vient de chanter plusieurs cantiques sur la création et le créateur. Oui, louer Dieu comme créateur, on le fait ici au culte. Oui, on le fait avec des cantiques anciens et les chants modernes. Le thème de la création n'est pas nouveau. mais seulement louer le Créateur, remercier pour la nature, admirer la création en montagne ou à la mer, n'est pas assez. Parce que Dieu a confié la terre aux hommes. Nous sommes ses représentants. Dieu a créé la terre et il l'a donnée aux êtres humains. Effectivement, il nous a confié la terre pour la cultiver et la préserver. Il y a un ancien cantique qui exprime ce lien entre les créateurs, la création et nous. Le psaume 8. Le psaume 8 chante sur la mission que Dieu a confiée à nous, les êtres humains. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ou ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble. Et même les bêtes de champ. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Cet ancien cantique, le psaume 8, loue Dieu. Il est notre Seigneur. Et le psalmiste voit le firmament. Il est étonné par la beauté de la création. Les étoiles brillantes, l'immensité de l'univers deviennent pour lui une prédication de Dieu. Quelle signification ai-je en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'est l'homme par rapport à la grandeur de l'univers? Qu'est-ce qu'est l'homme? En réfléchissant sur le contexte global, le psalmiste remarque que Dieu a donné aux hommes des pouvoirs royaux remarquables. Chaque homme est installé pour régner sur la création. Mais comment Dieu veut que nous exercions ce mandat? Il est écrit dans le psaume, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes de champ. » Ceci est une ancienne image. C'est lui qui a l'animal sous ses pieds, a le mandat de protéger l'animal. Le berger doit protéger les bœufs et les brebis contre les agresseurs, contre les bêtes sauvages. Dominer et régner implique la protection. Si Dieu nous confie le règne sur ce monde, ce n'est pas pour que nous l'exploitons et le pillons. Ce n'est pas pour détruire le monde, mais pour protéger cette terre en toute et toute la création, afin que tous les hommes puissent y vivre. En Genèse 1, verset 28, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui rampe sur la terre. » Soumettre la terre veut dire mettre la terre sous les pieds, veut dire protéger la terre. Ce commandement du Genèse 1 est une mission pour garder, une mission de berger. Nous sommes les gardiens de la terre de Dieu. Les paroles du psaume 8 nous rappellent que nous avons une responsabilité sur la terre et pour la terre. C'est aussi écrit dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, et quand Dieu domine, il protège et il garde. Et le texte continue, sur l'homme, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, nous avons une mission pour garder et pour protéger. Jésus connaissait toutes ces paroles de la Genèse et des psaumes. Il les connaissait par cœur. Et maintenant, Greta Thunberg dit à beaucoup de gens, surtout dans l'Occident judéo-chrétien, en Europe, elle dit que nous n'avons pas fait notre travail. Si on voit les photos de Greta, souvent, elle a une mine sérieuse, presque en colère. Elle dit que nous sommes devenus des exploiteurs de la création. Nous, les habitants des pays riches, nous vivons au détriment des pauvres. Nous n'agissons pas comme si la terre était précieuse et les ressources limitées. Elle dénonce les abus et elle dit que ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences dans le futur. Un avenir qu'on peut même pronostiquer par des calculs. La question du changement climatique est aussi une question de justice. Chacun de nous a le pouvoir, ce qu'il achète, ce qu'il mange, ce qu'il commande. Quelles sont les ressources et l'énergie que nous utilisons? Où nous allons avec quel mode de transport? Quels déchets nous produisons et quels gaz d'échappement? Ce sont nos décisions. C'est une question de justice. Oui, c'est une question de justice, comment chacun de nous vit et comment nous vivons en tant que société. Si nous vivons au détriment des autres, c'est une question de justice qui vit dans le luxe et la prospérité dans ce monde et qui ne fait pas partie. C'est une question de justice comment nous, les chrétiens, nous accomplissions notre mission de garder et préserver la création. C'est pourquoi je pense que Jésus encourageait Greta Thunberg. Peut-être Jésus dirait « Continue, s'écoule le monde, parle de la justice. » Jésus parlait aussi de la justice. Dans le sermon sur la montagne, il dit une phrase « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. » Matthieu 6, 33. Oui, Jésus nous dit « Cherchez la justice. » Nous avons adouci cette question de justice. Nous l'avons réduit théologiquement à la question « Comment nous pouvons être justes devant Dieu ?» Oui, Jésus est mort pour nous à la croix pour nous rendre justes devant Dieu. C'est vrai. En conséquence, nous pensons que nous pouvons vivre comme un pécheur et un juste en même temps. Et nous avons accepté que nous faisons des erreurs. Nous avons trouvé de nombreux arguments pour relativiser nos péchés. Mais quand Jésus nous dit « Cherchez la justice », il demande avec radicalité notre changement. Jésus ne relative pas la question de justice. Il ne balance pas le pour et le contre. Il revient à l'essentiel. Et avec ses paroles bien connues sur le règne de Dieu et sa justice, il nous demande « Qu'est-ce que nous cherchons en tant que chrétiens ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu cherches ?» Dans le contexte de Matthieu 6, Jésus parle des soucis des gens, leur vie quotidienne, leur consommation. Qu'est-ce que je vais manger et boire et comment je vais m'habiller? Ce sont des soucis quotidiens. De quoi on s'inquiète? La question est comment nous utilisons nos forces, notre temps, notre argent. Pour avoir une vie encore plus belle, pour vivre encore plus confortablement et plus rapide, une vie plus belle pour nous et pour nos enfants. Mais avec une telle vie, Est-ce que nous cherchons la justice de Dieu pour sa création? Est-ce que je cherche ainsi la justice de Dieu? Est-ce que nous prenons soin de l'avenir de notre monde et de l'avenir de nos enfants dans ce monde? Les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc sont « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Qu'est-ce que c'est l'évangile, la bonne nouvelle pour toute la création? La bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui libère et qui sauve. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour notre monde. Cette bonne nouvelle est transmise par nous, les chrétiens. Mais qu'est-ce que ça implique quand on voit la création? Quand nous devrons dire la bonne nouvelle à toute la création. Même au même temps, nous exploitons, nous pillons et nous détruisons la création. Qu'est-ce que ça implique quand il fallait plus que deux fois la terre si tout le monde voulait vivre comme nous en France? Nous pouvons vivre notre vie confortable parce qu'il y a d'autres hommes qui ne vivent pas comme nous, parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme nous. Comment on peut annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à ceux qui sont forcés par nous à vivre dans la pauvreté et l'esclavage? Parce que nous ne voulons pas payer cher, par exemple, pour les fruits exotiques qui viennent de monoculture. Quand nous, les riches, quand nous exploitons les autres, car nous avons besoin de leurs ressources, comment on peut leur annoncer l'Évangile? Quand la terre devient inhabitable à cause de nous, comment on peut annoncer la bonne nouvelle à toute la création? Greta Thunberg nous montre les blessures de notre monde et les conséquences si on ne change rien. Si on ne change rien, notre vie n'a plus un avenir sur notre planète dans un temps proche. Peut-être on l'accepte simplement, peut-être on se moque de Greta comme certaines personnes, prophétesses en culottes courtes et prix Nobel de la peur. Peut-être on réagit comme ça car c'est très inconfortable pour nous d'écouter ce message. Les prophètes dans la Bible étaient attaqués, critiqués et méprisés quand ils ont dit la vérité de Dieu, quand ils ont eu des messages inconfortables. Par exemple, le prophète Amos, quand il a critiqué le style de la vie quotidienne du peuple de Dieu, qui n'est plus cohérente avec ce qu'ils disent dans leur culte, leur chant et leur louange. Amos 5, 21 à 24. J'ai haï, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez les holocaustes et les offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les vokras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Ces paroles ne sont pas seulement inconfortables, ces paroles plaisent. Personne ne veut écouter de telles paroles. Il dit indirectement que les cultes et la louange peuvent être aussi un échappatoire de la réalité. Dieu peut être en colère par les cultes, dit Amos, si la vie quotidienne ne correspond pas au culte. Que la justice coule comme un torrent, dit Amos. Notre culte doit être juste tous les jours, de lundi au samedi, pas seulement le dimanche. Comment aujourd'hui la justice peut couler comme un torrent aussi? La justice climatique. Certainement pas en chantant encore plus de cantiques sur la création. Comment la justice climatique peut couler comme un torrent si on change la direction? Changer les habitudes et notre style de vie est très difficile. Mais nous sommes appelés à chercher la justice de Dieu. C'est notre responsabilité. Dans le mot « responsabilité », Il y a le mot réponse et le mot habilité. Responsable implique être capable de répondre. Oui, nous sommes capables de répondre à Dieu et au monde. Peut-être nous voulons dire que nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes pas capables. Les autres devraient commencer. Je ne fais pas si mal, mais je fais déjà des efforts. Mais nous avons la capacité de changer notre style de vie. Comment donc nous pouvons répondre aux faits? Quand c'est que nous vivons au-dessus de nos moyens et au-dessus de nos ressources? Quand on fait mal aux autres et à toute l'humanité avec notre style de vie? Qu'est-ce qui est notre réponse au monde à laquelle on veut annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu? Nous vivons dans un temps où chaque individu veut choisir lui-même comment il veut vivre. Et je pense que nous aussi, les chrétiens, nous ne sommes pas très différents. Nous voulons vivre aussi d'une manière autonome et individuelle. On n'aime pas d'être critiqué pour son style de vie. Mais si la justice de Dieu implique de préserver la création, c'est aussi la volonté de Dieu que chacun regarde tous les jours son style de vie. Si je parle ainsi, ce n'est pas du tout un jugement. Je prêche d'abord à moi-même, car je connais mes insuffisances et ma paresse d'agir. Si je parle ainsi, c'est parce que je vois ma responsabilité en tant que chrétien et scientifique pour expliquer l'urgence. Mais comment agir? Il y a des gens qui donnent des idées et montrent des exemples pour qu'on puisse apprendre. Par exemple, on pourrait essayer, pendant une semaine, faire des courses en limitant les emballages en plastique. Et on va voir comment c'est difficile et coûteux. Qu'est-ce que j'achète? Comment je peux limiter les déchets et économiser des ressources? Une idée peut être de ne pas manger la viande pendant la semaine, sachant qu'un kilo de bœuf consomme 10 000 litres d'eau lors de sa production. D'autres questions touchent notre mobilité. Est-ce qu'il y a des moyens de transport durable? Est-ce que j'utilise le transport public, le vélo, ou je vais à pied? Est-ce que la voiture est toujours nécessaire? Et le prochain vol aux vacances? Ou pour une conférence au bout du monde? Ou les questions sur notre habitation? Est-ce que j'ai besoin de construire une grande maison, sachant que la construction est responsable pour 10% des émissions de gaz carbonique? Finalement, personne ne peut vivre une vie parfaite. Il n'y a non plus un seul style de vie qui nous rend heureux et parfait. Mais n'en pas parler de tout n'est pas non plus une solution. Il faut en parler. Il n'y a pas de vie parfaite, mais beaucoup de petits changements pourraient être possibles. Par exemple, se demander si le déplacement en voiture est toujours nécessaire. Par exemple, de regarder la production d'un produit, regarder la consommation de l'énergie. Et en tant qu'Église, on peut se demander comment devenir une Église durable, équitable et juste. Certainement, il y aura toujours des différentes opinions sur ce thème. L'essentiel est d'accepter notre responsabilité pour ce monde et ne pas juger l'autre qui agit différemment. Être responsable veut dire aussi de prendre position dans les discussions sociétales et politiques. Malgré tous nos efforts individuels, les solutions globales sont nécessaires, soutenues par la politique et la société. Être responsable veut dire aussi de chanter les chants de louange consciemment, sachant que nos chants plaisent à Dieu si on cherche sa justice aussi dans notre vie quotidienne. Que dirait Jésus à Greta Thunberg? Je pense que Jésus dirait « Continue, appelle les gens au changement. J'espère qu'ils vont comprendre pour qu'ils préservent ma terre jusqu'à mon retour, quand je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais jusque-là, vive s'il y avait seulement cette une terre, et laissez la justice couler comme de l'eau. Amen.